Les podcasts de Bien en Périgord, Christine Ribérex, juillet 2022. Co-président de l'association SOS Forêt d'Ordogne, Jean-Claude Noir a été sollicité au début du mois de juillet pour venir constater des coupes rases non déclarées dans un espace boisé classé sur une commune du Grand Périgueux.
Le problème de ce terrain, en fait, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle un espace boisé classé. Donc c'est une des rares protections strictes qui existent en matière de protection des bois et qui relève donc du code de l'urbanisme avant tout. Donc c'est dans des espaces qui sont référencés au niveau des plans d'occupation d'urbanisme, locaux d'urbanisme ou les fameux PLUI maintenant dont on entend parler de façon plus générale. Et en fait, ce sont des espaces qui nécessitent pour le moindre aménagement des déclarations préalables auprès des services de la mairie et donc du Grand Périgueux, enfin le gestionnaire de l'urbanisme, et donc qui doit décrire le projet initial, les raisons de la coupe, parce que c'est extrêmement réglementé. Or, il se trouve qu'ici, comme sur d'autres communes un petit peu aux alentours, on s'est aperçu que de plus en plus, les espaces boisés classés font l'objet de coupes sans déclaration préalable. Justement, comme ils sont en périphérie de voisinage avec des maisons, parce qu'on va le voir tout à l'heure, qui sont vraiment limite du bois, qui ont voulu sécuriser un peu pour pas que les arbres tombent potentiellement sur les propriétés voisines. Sauf que ça, à la limite, ça peut s'entendre. Mais aller couper 2 hectares de bois ou 2 hectares et demi pour sécuriser 100 ou 150 mètres de bordure de riverains, c'est pas très cohérent. Donc après, l'exploitant, lui, son langage, c'est de dire « oui, mais j'allais pas venir pour 4 bouts de bois, donc tant que j'étais là, autant que je rentabilise mon déplacement. » Et d'ailleurs, on le voit sur cette parcelle qui est ici, on est quand même sur une bordure de chemin. Les maisons les plus proches sont quand même en recul de plusieurs dizaines, voire cinquantaines de mètres. Et là, on a coupé quasiment une bordure de plus de 40 ou 50 mètres en bordure du chemin, où il y avait de magnifiques chênes qui se justifient en rien par rapport à un problème de sécurité. Regardez là le plateau. Et regardez le trou que vous avez là-bas.
Oui.
Et puis quand on s'approche un peu là, on voit bien que la déclivité, en fait, elle va où? On aperçoit l'éclaircie, elle va droit sur les maisons là-bas. Donc ces espèces les bois, ça retient l'eau. Hein. Donc du fait qu'on a enlevé ces arbres-là et qu'on a créé des espèces de trouées, on guide l'eau et les boues éventuelles vers ces maisons-là, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, en espérant de se tromper que ça n'arrivera jamais. Mais malheureusement, ça fait partie des probabilités très fortes.
Le maire de la commune s'est rendu sur les lieux et a relevé l'infraction.
On est venu sur le terrain, on n'avait absolument pas échangé. La première chose qu'il a dite, une fois qu'on avait fait le tour avec tous les gens qui étaient présents, c'est « je n'ai pas d'autre choix que de relever l'infraction parce qu'effectivement, on est sur une infraction caractérisée. » Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'on ne peut que le féliciter par rapport à ça. Et deuxièmement, c'est vrai qu'en tant qu'association présente, il n'était pas non plus obligé de nous associer à son procès-verbal. Or, il a tenu à ce que les associations, à savoir SOS Forêt d'Ordogne et la CEPANSO, puissent mettre un commentaire qui va être envoyé en annexe de son procès-verbal. Donc de ce côté-là, on peut dire qu'il a été dans le bon sens.
Militant pour la sauvegarde de nos forêts périgourdines, l'association SOS Forêt d'Ordogne est victime de son succès.
On a créé une association qui est un peu collégiale, puisque nous sommes 9 coprésidents. Et on a fêté cette année notre premier anniversaire au mois de juillet. On a fait une assemblée générale à Saint-Aquilin. Et on compte aujourd'hui quasiment 200 adhérents et sympathisants, ce qui pour une association comme la nôtre, qui a moins d'un an, est quand même relativement important. Et on croule quand même un peu sous les demandes et tout, parce que de plus en plus, on est sollicité en tant qu'association pour donner notre avis sur la gestion forestière dans le département, et maintenant malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, bien au-delà, puisqu'on a beaucoup de départements qui n'ont pas d'association comme la nôtre, notamment en Corrèze, Haute-Vienne, etc., et qui nous demandent beaucoup de renseignements par rapport à ce qui se passe chez nous. Donc on est beaucoup, beaucoup sollicité pour les coupes rases, c'était au départ l'argumentaire principal. Mais au-delà, par les deux exemples qu'on a cités précédemment, pour les espaces boisés classés, quand les gens voient qu'il se passe quelque chose, on est de plus en plus sollicité. Justement, on nous pose des questions exactement sur les problèmes de feu, pourquoi il y a ces feux-là, qu'est-ce qui justifie une gestion différenciée, etc. Donc c'est vrai qu'on croule quasiment sous les demandes et les questionnements du citoyen lambda.
Outre des opérations de sensibilisation à une gestion forestière différenciée, l'association envisage, sur le modèle des AMAP agricoles, de mettre en relation des propriétaires fonciers et des forestiers responsables.
Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est important, comme en toute chose, c'est l'éducation et la connaissance. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ce problème éducatif et de connaissance en matière forestière, elle est complètement muselée par les filières économiques qui concernent la forêt. C'est-à-dire qu'ils sont là uniquement pour considérer le bois comme un matériau économique, comme on dit souvent, faire des planches à billets. Partant de là, l'idéal aujourd'hui pour nous, c'est de rencontrer le plus de citoyens lambda, de propriétaires forestiers surtout, parce que ce sont eux les principaux concernés, et de leur apporter une parole qui n'est pas celle qu'ils entendent tous les jours. Leur expliquer que la forêt peut se gérer différemment. On n'est pas obligé de faire des rotations de bois tous les 30-35 ans, tout casser, tout recommencer, tout replanter, comme on fait du tabac ou du maïs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche nous, à la filière bois, c'est de vouloir faire de la forêt ce qu'on a fait d'agriculture dans les années 50. Alors en dehors de ces côtés pédagogiques, groupements forestiers citoyens, etc., on avait aussi pour objectif de créer des AMAP, c'est-à-dire un peu comme en partie agricole, c'est-à-dire mettre en relation des gens qui proposent du bois ou des choses comme ça avec des gens qui en auraient des besoins. Et on a étendu ça au fait de se dire aussi que ça serait bien de faire un recensement de ce que nous on peut considérer comme étant des forestiers responsables et de faire en sorte que on ait une liste à proposer de gens qui font des travaux traditionnels, genre des bardages traditionnels, du bûcheronnage. On se rend compte qu'en Dordogne, on a quand même des gens qui font du débardage à cheval. On a des scies mobiles qui existent, c'est-à-dire des gens qui ont des scies qui traînent derrière un camion, comme ça serait un camping-car ou n'importe quoi. Et puis on vous démonte une scie chez vous et on vous scie votre propre bois qui est coupé, ce qui fait que ça permet aux agriculteurs, par exemple, d'avoir du sciage à façon, mais directement qui est fait chez eux. Donc on se rend compte qu'il y a plein de gens comme ça qui existent, mais qui ne sont pas du tout fédérés ni rien. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est essayer de les fédérer, de faire en sorte que ces gens-là se connaissent. Et puis, que quand un bûcheron fait un travail traditionnel dans un secteur, qu'il puisse proposer un scieur de façon à ce que les gens puissent avoir du bois à disposition, etc. Enfin, réorganiser tout ce qu'il y avait il y a 20-30 ans qui a été cassé pour des raisons économiques. Et il y a aussi quelque chose qui ne nous était pas apparu dans l'immédiat, mais qui aujourd'hui est une évidence, c'est qu'il faut absolument aujourd'hui répondre de façon très réactive aux demandes des gens. Parce qu'effectivement, quand on nous signale une coupe ou qu'on nous signale un abattage en espace boisé classé, comme ici, etc., et à un moment donné, il faut être réactif parce que c'est pas une semaine après qu'on peut faire arrêter les chantiers. Donc il faut une réaction, il faut essayer d'avoir des représentants locaux dans quasiment tous les cantons ou arrondissements, de façon à avoir des gens réactifs sur place. Donc on est en train d'organiser tout ça. Et on est de plus en plus en relation avec des grands organismes comme Canopée, Reporters, et il y en a bien d'autres, Monsieur Mondialisation et autres, qui sont des relais nationaux, voire internationaux, qui relaient notre parole, et puis nous on relaie la leur aussi, mais en l'appliquant de façon locale.
Les forêts et plus largement la filière bois constituent un enjeu stratégique pour modérer les conséquences du changement climatique par leur capacité de stockage de carbone et donc d'atténuation de l'augmentation du CO2 atmosphérique. Les partisans d'une gestion plus dynamique et productive arguent de la nécessité de reboiser massivement grâce aux résineux privilégiés par rapport aux feuillus.
Ils ont des arguments qui, quand on ne rentre pas dans le détail, sont tout à fait recevables. Sauf que quand on prend une forêt traditionnelle comme on a en Dordogne, le fait d'exploiter, on libère énormément de carbone, et le fait de replanter, c'est un petit peu l'adolescence des arbres, et pendant ce temps-là, ils ne captent pas de carbone ou très peu. Donc cette espèce de dette carbone qu'on accumule au fur et à mesure sur des milliers et des milliers d'hectares, fait qu'à un moment donné, c'est un petit peu comme la dette du pays, on se rend compte que le PIB, il ne suit pas forcément un peu l'endettement. Donc c'est exactement la même chose. Alors effectivement, les résineux captent le carbone, etc., mais pas de la même façon. Il y a un argument aussi aujourd'hui avec tous les feux qu'on voit partout et malheureusement on les subit au quotidien. Et aujourd'hui on est un peu dans la purée des incendies de la Gironde et des Landes. Une forêt feuillue, c'est comme la couleur noire et blanche. C'est-à-dire que les forêts feuillues renvoient la luminosité, les rayonnements solaires. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les bois, dans une forêt feuillue, on sent une espèce de fraîcheur. Parce que le rayonnement solaire est renvoyé par les feuillus en général. Donc ça garde la fraîcheur, l'humidité, etc. Les résineux, c'est le contraire. Les résineux captent l'énergie solaire. Donc c'est pas innocent que les forêts résineuses brûlent mieux que les forêts feuillues. Il y a de la résine, il y a les cognes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a cette espèce d'accumulation de chaleur. Là, on est dans un peuplement feuillu. On vient d'avoir des températures qu'on n'a jamais eues ces derniers jours. On est dans une ambiance fraîche. Et il y a une espèce de vent frais. On serait dans un endroit résineux, ça serait exactement le contraire. On suffoquerait par rapport à une humidité étouffante. Donc il y a tout un tas de facteurs qu'on nous met en avant. Et puis moi, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi regarder devant nous. Le bois énergie, c'est très bien, mais quand vous voyez ces espèces de gros engins qui broient avec des dizaines de litres de fioul à l'heure, avec des fumées noires qui sortent des pots d'échappement uniquement pour faire des pellets, etc., et des granulés à bois, on peut se poser la question du bilan carbone.
Toujours avec l'objectif d'adapter la forêt française au changement climatique, la filière bois expérimente de nouvelles essences qui seraient plus adaptées au climat à venir.
Oui, c'est l'argument qu'on entend aujourd'hui. Moi, j'ai été technicien des eaux forêts pendant 40 ans en Dordogne. Quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, grosso modo, on coupait un pin à 45 ans, 50 ans. 40 ans après, on les coupe à 30, 35 ans. C'est-à-dire qu'en l'espace de 50 ans, on a gagné 15 ans. Mais c'est pas forcément, on parle pas de modification génétique, c'est pas ça le problème. Mais c'est pas ça trop le problème. C'est qu'en fait, on fait venir des essences d'ailleurs, avec des graines qui viennent par exemple du Portugal ou d'ailleurs, qui sont mieux adaptées à des périodes sèches ou autres, et on veut les introduire en Dordogne. On l'a déjà fait il y a 20 ou 30 ans, avec beaucoup de déboires, et on est revenu sur ce qu'on a fait là. Donc, le problème, c'est un faux problème, ça. Aujourd'hui, on coupe les arbres de plus en plus tôt, on les coupe de plus en plus précocement, mais ce n'est pas une histoire de génétique ou d'amélioration autre. C'est justement parce qu'on se rend compte que les bois, on a besoin de bois de plus en plus petits. Donc on nous fait croire que ce sont des gens qui produisent des arbres qui produisent plus tôt, mais ce n'est pas ça, c'est qu'on les coupe beaucoup plus précocement. Moi, à côté de chez moi, la semaine dernière, je me suis arrêté, j'ai entendu un bruit de machine, je me suis arrêté, je suis discuté avec le débardeur qui était là, qui avait une grosse machine, une grosse tête d'abatteuse, etc. Mais je lui ai dit, vous faites quoi là? Il me dit, je coupe des pins, mais je dis, ça je vois bien. Mais j'ai dit, c'est quoi ces pins là? Ils ont 30 ans. Ben, il m'a dit oui, mais aujourd'hui il faut adapter la demande, il faut que les arbres s'adaptent à la demande. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui les unités de scie, ce qu'on appelle les canters, sont adaptées pour une certaine grosseur de bois. Les grosses machines dans les bois ont des espèces de grappins qui sont adaptés pour certaines circonférences de bois. Donc on coupe le bois en fonction des machines qu'on met dans les bois et en fonction du produit qu'on veut en faire.
En 2020, la Cour des comptes a rendu un rapport concernant la structuration de la filière forêt-bois avec des préconisations, Notamment de repeuplement massif.
Disons que, comme dit Francis Allais, qui est un des plus grands dendrologues et biologistes français, reboiser pour reboiser, ça ne veut rien dire. Le plan de relance prévoit je ne sais plus combien de millions de plantations d'arbres, mais si c'est des millions de résineux, ça ne sert à rien non plus. Il n'y a pas de précision là-dessus. Et quand j'entends dire, moi, par rapport à la grêle qu'il y a eu sur Ibérac ou les feux de forêt qu'on voit aujourd'hui, les grands groupes forestiers nous expliquaient effectivement que le plan de relance devra être revu pour reconstituer ces peuplements résineux et les augmenter de façon à faire que l'économie reparte plus rapidement possible, ça ne me rassure pas beaucoup. Ça ne nous rassure pas beaucoup.